ton avis, Bourg-en-Bresse en 2050, ça ressemblera à quoi ?
Tu crois qu'on entendra toujours le chant des oiseaux ?
Aurais-je trop chaud dans mon appartement l'été ?
Tu penses qu'on pourra faire pousser des légumes sur le toit ?
Est-ce que je me sentirai à ma place dans cette ville ?
Est-ce qu'on sera solidaires entre nous ?
Quand on pense à la ville du futur, on se pose plein de questions.
Et toi, t'en penses quoi ?
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Camille.
Bonjour tout le monde, bonjour Mata.
Bienvenue sur Radio B pour un nouvel épisode de notre ville Regard vers le futur. Une émission coproduite par les habitantes et habitants de la Maison de la Culture et de la Citoyenneté avec la complicité d'Altec, de la GLCA et de la MJC Popcorn. Aujourd'hui, nous abordons un sujet essentiel. La ville du futur peut-elle devenir un espace inclusif pour tous les genres ?
C'est vrai que c'est un sujet passionnant avec plein d'enjeux qui sont importants. On va d'ailleurs plutôt se pencher sur la ville d'aujourd'hui. Dans cette chronique, on va parler d'urbanisme, imaginer ce qu'une ville inclusive pourrait apporter et comment elle pourrait répondre aux besoins de tout le monde en s'attaquant notamment aux inégalités qui se cachent dans nos espaces urbains. On en parle tout de suite.
Alors pourquoi parler d'égalité des genres au cœur de la ville du futur ? Parce que même si on n'y pense pas toujours, nos villes actuelles reflètent souvent des biais genrés. Elles privilégient certaines fonctions et usages liés à une vision traditionnelle et masculine du monde, au détriment évidemment d'une diversité d'utilisateurs et d'utilisatrices. Une ville plurigenre, détachée des stéréotypes femmes-hommes, au contraire, chercherait à créer des espaces où chacun, chacune se sentirait inclus et en sécurité, avec un accès équitable aux ressources et aux opportunités.
Alors pour commencer, Mata, est-ce que tu peux nous expliquer d'où viennent ces inégalités dont tu viens juste de parler ?
Alors pour ça, il faut faire un détour par l'histoire et la sociologie. Nos villes actuelles sont le reflet d'une organisation de la société où les hommes et les femmes avaient des rôles bien définis. Depuis l'Antiquité grecque, on retrouve cette division genrée des espaces, les hommes dans l'espace public, les femmes dans la sphère privée. Aristote, par exemple, expliquait dans la Politique que les femmes étaient faites pour rester au foyer pendant que les hommes régnaient sur la cité.
Ouais, et puis on aurait pu croire depuis l'Antiquité finalement que les choses allaient évoluer avec le temps. Et pourtant, cette vision, elle a traversé les siècles. Et pire encore, elle s'est même renforcée au XIXe siècle avec l'arrivée de l'industrialisation. À cette époque, le modèle patriarcal s'est carrément durci. Les femmes étaient complètement cantonnées aux tâches du foyer et aux soins des enfants, tandis que les hommes étaient associés au monde extérieur, à la ville, au travail, à la politique ou encore, bien évidemment, à la guerre.
Alors en effet, cette répartition rigide des rôles, elle a été analysée par plein de sociologues et d'historiens, notamment Pierre Bourdieu, dans La domination masculine en 1998. Dans son ouvrage, il nous explique notamment comment cette séparation entre la sphère publique et la sphère privée elle a renforcé les inégalités de pouvoir entre les sexes. Et bien sûr, au XXe siècle, les mouvements féministes ont commencé à remettre en question ce modèle, revendiquant l'accès des femmes à l'espace public et leur place dans la vie économique et politique. Ces luttes ont d'ailleurs permis de conquérir de nombreux droits. Mais on voit bien qu'il reste encore aujourd'hui du chemin à faire. Après tout, des siècles d'histoire ont laissé leur empreinte sur nos mentalités et sur la société dans laquelle on évolue aujourd'hui.
On en revient maintenant à la question de comment ces inégalités de genre elles se traduisent dans nos villes. Est-ce que tu peux, Mata, nous donner quelques exemples qui ont été identifiés et étudiés notamment par les sociologues qui illustrent ces inégalités de genre aujourd'hui dans l'espace urbain ?
Alors déjà, il y a la question de la sécurité des lieux qu'empruntent les femmes. Il y a plusieurs études qui montrent que les femmes et les personnes non-binaires sont souvent plus vulnérables dans l'espace public. Si on prend l'exemple des espaces publics la nuit, souvent le manque d'éclairage et la présence de lieux isolés amplifient les risques de harcèlement et d'agression. Et les femmes, par peur, elles s'autorisent moins à investir l'espace public la nuit, par exemple.
Oui, je pense que c'est important de rappeler quelques chiffres à ce sujet. Alors, il y a plusieurs études qui existent sur cette question. On peut citer cette étude internationale qui avait été menée en 2020 par l'Institut Ipsos et la Fondation L'Oréal. Sur 15 000 personnes interrogées dans 8 pays différents, cette étude elle a notamment révélé en France que 81% des femmes avaient déjà été victimes de harcèlement sexuel dans les lieux publics. 81%, c'est énorme et ça montre à quel point ce problème il est encore omniprésent de nos jours.
En effet, ce chiffre est édifiant. Mais il y a un autre aspect dont on ne se rend pas forcément compte, qui est le fait que les villes sont pensées pour prioriser ce qu'on appelle les fonctions productives. Alors je m'explique. Les espaces dédiés au travail, à l'industrie ou aux infrastructures économiques ont souvent été conçus en fonction des besoins masculins. Par exemple, les trajets domicile-travail typiques des hommes, selon les modèles traditionnels, sont largement facilités par des réseaux de transport direct. En revanche, les femmes, qui sont souvent en charge de tâches domestiques et familiales, effectuent des trajets plus complexes. On parle aussi de trajets en étoile, avec des arrêts multiples pour accompagner les enfants ou faire des courses, des besoins qui sont rarement pris en compte dans les plans de mobilité.
Ouais, un autre exemple qui est frappant, même si comme ça, ça peut sembler anodin, c'est la question des toilettes publiques. En moyenne, les femmes, elles passent 2 à 3 fois plus de temps aux toilettes que les hommes. Alors, c'est pas pour se repoudrer le nez, hein. C'est déjà pour des raisons physiologiques, mais c'est aussi parce que souvent, ce sont elles qui accompagnent les jeunes enfants aux toilettes. Au passage, d'ailleurs, on peut souligner que dans la plupart des restaurants, les tables allongées sont encore souvent du côté des femmes. Petite anecdote. Et pourtant, y a généralement moins de toilettes qui sont réservées aux femmes qu'aux hommes. Ça peut sembler un détail comme ça, mais en fait, ça a un vrai impact. Ça limite l'accès des femmes à certains espaces publics, ou à défaut, ça les oblige à attendre beaucoup plus de temps que leurs homologues masculins.
Alors, on peut aussi parler des équipements sportifs et de loisirs en ville. J'imagine que vous avez remarqué que les grandes infrastructures comme les stades ou les terrains de foot sont surtout utilisées par des hommes. De leur côté, les femmes, souvent avec des enfants, fréquentent plutôt des espaces plus petits comme les squares ou les jardins publics. Ça montre bien que même dans les loisirs, l'utilisation des espaces urbains est encore très marquée par le genre.
Ouais, et puis ces inégalités, elles ne se limitent pas aux usages qu'on a des lieux. Ça va plus loin. On peut prendre l'exemple des monuments ou alors les noms de rues. Est-ce que vous saviez que 91% des noms de rues dans les grandes villes européennes honoraient des hommes ? C'est assez énorme. Et ben, cette surreprésentation masculine dans la mémoire collective urbaine, elle renforce en fait un sentiment d'exclusion, notamment pour les femmes et les groupes marginalisés. Du coup, la ville, elle n'est pas seulement un espace physique qui est genré, on vient de le voir juste avant, mais elle devient aussi un espace symbolique qui est marqué par des siècles de patriarcat.
Alors pour le plaisir, on peut quand même citer le contre-exemple français de la bien nommée Ville aux Dames, située en Indre-et-Loire, dont 99% des noms de rues sont des noms de femmes. Cela grâce à une initiative du maire et du conseil municipal dans les années 70.
Ouais, cet exemple, il est intéressant que tu donnes, Mata, parce que ça permet aussi de se pencher finalement sur les solutions qui existent et qui pourraient être mises en œuvre pour lutter contre ces inégalités de genre dans l'espace urbain. D'ailleurs, je crois que tu as quelques exemples de villes européennes à nous présenter.
Alors oui, j'ai choisi 3 exemples. On peut parler pour commencer de Stockholm en Suède, qui a fait un travail assez remarquable pour réduire les inégalités dans ses espaces publics en s'appuyant sur des études genrées. Par exemple, la ville a revu son éclairage public pour améliorer la sécurité, elle a sécurisé l'accès aux transports en commun et elle encourage l'entrepreneuriat féminin pour que les femmes investissent davantage l'espace public, notamment en ouvrant des cafés ou des lieux de rencontre. Un autre exemple du côté de Vienne, en Autriche. Là-bas, des réformes ont été mises en place pour adapter les infrastructures aux besoins des femmes et des familles, avec une vraie réflexion sur leurs usages, sur l'usage des espaces urbains. Et en France, certaines villes commencent aussi à agir, surtout en matière de sécurité des femmes. On pense par exemple au transport à la demande, avec des bus de nuit qui peuvent s'arrêter quand les femmes le demandent, ou encore à des initiatives comme l'application Uber qui a lancé récemment Uber by Women, qui permet de connecter les femmes passagères aux femmes chauffeurs. Il y a même des parkings 100% féminins qui existent.
Vous écoutez Notre Ville, regard vers le futur, sur Radio B.
Alors, ces initiatives dont tu viens de parler, Mata, elles sont intéressantes, elles apportent des solutions pratiques. Mais il faut aussi garder en tête que finalement, elles ne s'attaquent pas au cœur du problème, c'est-à-dire les inégalités de genre qui sont profondément ancrées dans notre société. Sécuriser l'espace public, comme tu l'expliquais juste avant avec Stockholm ou Vienne, c'est une avancée qui est nécessaire. Elle répond à un problème qui est concret, hein, on a vu les chiffres tout à l'heure. Mais on peut aussi poser la question autrement. Pourquoi est-ce que ce besoin de sécurité existe-t-il dans nos villes ? Est-ce que ce n'est pas à cause d'une organisation patriarcale à l'échelle de la société ? Et puis, il faut bien le dire, ces mesures, elles n'auront un réel impact que si l'égalité des genres devient une véritable priorité. On peut reprendre l'exemple des réseaux de transport adaptés aux trajets complexes. En soi, c'est une bonne idée. Mais tant que les tâches domestiques elles vont rester majoritairement assumées par les femmes, ben en fait, on fait que contourner le problème sans vraiment le résoudre. Finalement, pour qu'une ville inclusive fonctionne, il faut aussi qu'il y ait une société inclusive derrière.
Alors en effet, en parlant de ça, on peut reprendre l'exemple de Stockholm que j'évoquais tout à l'heure, car il faut aussi le replacer dans le contexte de la société suédoise. Même si tout n'est pas parfait, la Suède est souvent citée comme un modèle en matière d'égalité de genre dans ses politiques sociales, et ce depuis plusieurs années. Par exemple, le droit de vote pour les femmes a été instauré en 1921, alors qu'en France, il faudra attendre 1944 pour que ça soit accordé aux Françaises. Le congé parental est désormais partagé de manière égale entre les deux parents, et il y a actuellement 12 femmes pour 23 ministres dans le gouvernement. Sans oublier le fait qu'ils ont mis en place une législation très stricte concernant les violences sexistes et sexuelles. Bref, la Suède a mis en place de nombreuses mesures pour intégrer l'égalité de genre dans tous les aspects de la société, et du coup, ça a un impact aussi dans les politiques urbaines suédoises.
Avant de finir, moi j'aimerais bien revenir sur un point qui me pose question quand on a préparé cette chronique. Le mot inclusion, dont on parlait tout à l'heure, on parle de ville inclusive, ben, ça part d'une bonne intention. Mais ça peut aussi donner l'impression qu'il y a un centre, une norme, à laquelle on ajoute ensuite des groupes autres pour qu'ils y trouvent leur place. Ici, on a parlé des femmes, mais on pourrait aussi faire cette chronique en parlant des personnes à mobilité réduite, des enfants, des personnes âgées, etc. Des catégories de personnes pour qui on entend aussi la notion de besoin d'une ville plus inclusive. Comme si à la base, du coup, ben, on considérait que la ville n'était pas pensée pour eux.
Alors totalement d'accord, à la place, je pense qu'on pourrait peut-être plutôt parler de ville équitable et ainsi se donner une toute autre ambition, celle de concevoir des espaces qui, dès le départ, en fait, considèrent la diversité humaine comme une évidence et non comme un ajout ou une adaptation. Mais du coup, ça impliquerait d'intégrer cette équité dans chaque étape de la conception urbaine, des infrastructures à la mobilité en passant par les usages et la symbolique, évidemment.
Ouais, et puis au-delà de la justice sociale que ça représente, une ville équitable, c'est pas qu'une question de réparation ou d'intégration. C'est aussi un projet qui replace l'humain dans toutes ses singularités au centre. Ça redéfinit non seulement qui a accès à quoi, mais aussi comment chacun peut se sentir légitime dans l'espace public, à équité avec les autres. Finalement, c'est une vision de la ville qui n'exclut personne, pas même dans la manière dont on en parle.
En effet, on sait que les mots ont une influence sur le réel et il est important de se questionner sur le langage et sur ce qu'il produit comme effet et dit de notre société. Pour aller plus loin, je vous invite à lire un ouvrage qui m'a été conseillé par une collègue de la MJC qui travaille sur ces questions depuis longtemps, « Le genre en ville » d'Edith Marué-Joule qui aborde justement toutes ces questions de manière très détaillée.
Ouais, merci pour cette recommandation de lecture. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette émission. On espère que ça vous a donné matière à réflexion sur cette ville du futur. En tout cas, nous, ça nous a posé beaucoup de questions. Comment cette ville peut devenir un espace inclusif? Comment chacun et chacune peut y trouver sa place? Avant de se quitter, comme on est fin 2024, on vous rappelle que cette émission, elle fait partie d'une programmation culturelle plus large qui se tiendra de janvier à juin 2025. Il y aura des événements, des ateliers et des expositions pour questionner l'avenir de Bourg-en-Bresse à l'horizon 2050.
Alors le lancement officiel de cette programmation aura lieu le 23 janvier prochain à la Maison de la Culture et de la Citoyenneté, autour d'un événement gratuit et ouvert à toutes et tous. On vous invite dès maintenant à aller sur la page Facebook de la MCC Bourg-en-Bresse où vous retrouverez toutes les infos pratiques et le programme. À très bientôt sur Radio B pour une nouvelle émission, Notre Ville, Regard vers le Futur.
À bientôt. À ton avis, Bourg-en-Bresse en 2050, ça ressemblera à quoi?
Tu crois qu'on entendra toujours le chant des oiseaux?
Aurais-je trop chaud dans mon appartement l'été?
Tu penses qu'on pourra faire pousser des légumes sur le toit?
Est-ce que je me sentirai à ma place dans cette ville?
Est-ce qu'on sera solidaires entre nous?
Quand on pense à la ville du futur, on se pose plein de questions.
Et toi, t'en penses quoi?